Pour cette dernière séance de l'année, on a regroupé les gens selon une thématique toujours un peu arbitraire, comme dans les autres séances, mais qui peut permettre d'étudier des films même artificiels entre les textes. On s'était dit qu'on allait parler de représentation sans trop réfléchir à ce qu'on entendait par là d'ailleurs. Je pense que moi je sentais vaguement en fait d'avoir des sources qui parlent d'une vision morale du crédit, etc., plutôt que des sources issues de la pratique, mais là on n'est heureusement pas exclusif de l'autre. Et finalement, ce que fait Pierre, c'est plus réfléchir aux représentations à partir de sources de la pratique. Donc ça pour dire que vos représentations, c'est en fait ce que vous voulez, incluant rien, comme parmi les options. Donc on va écouter Sylvain Piron puis Pierre Gervais. Jean-Andreau a bien voulu lancer la discussion, ça va faire office de discutant. Et puis, selon le temps qui nous restera, et si vous le souhaitez, on pourra parler un petit peu de ce qui se passe l'année prochaine ou non à la suite de ce séminaire. Donc pour commencer, on a la joie d'accueillir Sylvain Piron, qui est maître de conférence à l'EHESS, où il est membre du groupe d'anthropologie scolastique, le GAS, à l'intérieur du centre de recherche historique. Et donc, il travaille assez logiquement sur les scolastiques, sur l'histoire intellectuelle médiévale, et en particulier sur Pierre de Jean-Olivier, entre autres, qui a dit quand même beaucoup de choses sur les bonnes et les mauvaises pratiques des marchands, donc des choses qui nous touchent d'assez près. Donc sinon, je te laisse la parole.
Merci. Il y a deux pages de scolastique, donc ça que je vous ai rapporté, et les autres, je vais vous rapporter. On est bien.
On avait dit le temps nécessaire, on pouvait une demi-heure et trois quarts d'heure. Enfin, on fait tout aujourd'hui puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc voilà.
Plutôt moins, d'accord.
Si on en met beaucoup, on sera fini.
Voilà, exactement. En plus,
voilà. Donc, plutôt entre une demi-heure et trois quarts d'heure, on avait dit.
Donc c'est comme ça un peu sur les représentations, parce que ça me mise, que tu l'as mis comme intitulé général. Et ensuite, je ferai vraiment mon autocritique, c'est-à-dire que j'ai proposé un thème à l'époque où je pensais pouvoir écrire un article dans le courant de cette année, que je n'ai pas réussi à commencer, qui sera écrit d'ici peut-être 2-3 ans. Je présente un passé qui reste à écrire, mais qui me paraît très bénéfique. Donc c'est vrai que ce n'est pas trop très construit, pas plutôt de faire référence à la documentation et au moins poser des questions qui peut-être vous intéressent. Et d'abord sur la question, il y a assez de... Voilà,
les mêmes qui sont...
C'est vous, et c'est vous qui a marché ou pas à l'arrivée, 4 pages non numérotées. Il y a un classement interne qui permet de suivre. Voilà. Donc sur la représentation, parce que ça m'a amusé de me souvenir qu'il y a 15 ans, j'aurais accepté son problème, une dichotomie entre représentation et pratique. Et en me posant la question, on travaille sur la représentation en essayant d'aller vers les pratiques. Or,
je peux faire passer.
Or, tout le but du travail que j'ai fait depuis 15 ans, c'est précisément de dépasser cette dichotomie et de cesser de montrer que, sur ce cas-là particulièrement, mais sur d'autres aussi, les discours savants ne sont pas en surplomb par rapport aux pratiques ni à la remorque, mais qu'il y a des interactions constantes entre les deux et que, plus encore, la représentation au sens classique, qu'on est peut-être content d'une image donnée d'un phénomène, n'est pas du tout un modèle adéquat pour penser cette relation, et qu'en réalité, dans le cas présent, il s'agit très précisément de normes, et je vais vous parler de conflits, enfin de normes parfois conflictuelles, de registres normatifs qui entrent en composition les uns avec les autres, et qui sont à des titres différents dans la tête des acteurs. Et on ne peut sûrement pas, enfin, je suis toujours tout à fait allé, partir sur la base où là où il y aurait une pratique pure et à côté des phénomènes mortaux qui seraient déconnectés des pratiques. Les pratiques impliquent des individus sociaux avec des cultures plus ou moins vastes qui peuvent avoir des notions même très canalisées et avec un reste très fin de quelque chose d'une culture plus générale. Donc je crois qu'on ne peut sûrement pas séparer ces choses-là et je vais essayer de vous prouver. Et je vais vous prouver en essayant de me critiquer moi-même. Alors je vais enfin, là, je vais donner la référence d'un article paru en 2005, je pense que c'est passé pour ceux qui ne l'auraient pas lu, pas pour ça regarder, je l'ai mis sous un format non éditeur, enfin pas l'éditeur, sur HHF, voilà, vous l'avez vu, ça c'est la version propre
que vous voulez acheter.
C'est mon avant-dernier tiré à part, donc si quelqu'un le veut vraiment, je peux en céder un exemplaire.
derrière.
Non, c'est gratuit, c'est de la. On est dans la chose. C'est du bon, dans la chose du bon. C'est du bon. Non, non, c'est juste qu'on est sans contrôler du bon. Non, 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 non. Voilà, donc on va rentrer dans le. Maintenant dans le vif du sujet, dans cet article il était question, c'était un colloque justement qui réunissait à 30, un nombre important d'historiens, de plus que 30, qui étaient supposés parler ensemble de pratique et idéologie, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait à peu près aucune communication possible entre les deux mondes. C'est assez satisfaisant de voir cette... c'était le programme est affiché, il est dans le titre du volume, mais... concrètement, il n'y a eu aucune discussion et aucun échange réel. Et donc j'étais l'un des seuls à essayer, ou presque le seul, à essayer de faire le feu entre les phénomènes, même si je suis resté beaucoup plus, enfin, très clairement dans le domaine de la réflexion. Et j'ai repris la question de l'usure. Soudainement, l'article a un but polémique avoué, et je crois, enfin, j'espère qu'il a été entendu, de critique du livre de Clavero, que j'ai sûrement vu passer un moment ou un autre. Paru en italien, en Italie, en espagnol en 91, traduit en 96 en français, et que je considère comme un très mauvais livre, et qui me paraissait important de montrer que Clavero avait mis le doigt sur quelque chose d'important qu'il n'avait pas compris. Et ce qu'il n'a pas. Il a voulu, c'est vrai que c'est un livre qui s'achève sur un contrat d'échec, et je crois que pour le prendre à la lettre, c'est pas comme une coquetterie, c'est quelqu'un qui n'a pas compris son objet d'étude, qui était cette contradiction. Entre la gratuité demandée par les théologiens d'un don, d'un prêt sans esprit, qui doit être fait sans esprit de retour, et le fait qu'il y a que le retour est malgré tout nécessaire et indispensable. Et on a vraiment là un conflit de normes entre un niveau qui est celui du droit naturel, où il y a donc les préceptes accessibles par la raison, et non pas révélés par la théologie, enfin par le droit théologique, mais accessibles par la raison et qui sont visibles dans la nature, vous êtes en façon de penser le droit naturel, il y a un phénomène naturel qui est de faire du bien à celui qui vous fait du bien. Et le modèle de base étant le devoir que les parents, que les enfants ont à l'égard de leurs parents. Donc il y a une gratitude naturelle qui est demandée. Et il se trouve que dans le cas de l'usure, on a une situation dans laquelle, et les théologiens du début du XIIIe siècle le disent et discutent de ce problème, de cette contradiction qui est flagrante à leurs yeux, on a un cas où l'Église interdit un phénomène naturel. Et le phénomène naturel, c'est de faire acte de gratitude en remerciant, dans le cas présent, d'un prêt. Et la théologie dit, non, dans le cas d'un prêt gratuit, le mutuum, j'emploie le terme barbare, c'est plus simple pour éviter les confusions, c'est une forme juridique très particulière qui est un contrat de droit romain qui concerne des biens consommables et dans lequel il y a un transfert de propriété, c'est-à-dire il est classiquement important sur ce qui peut se peser ou se compter, donc en argent ou en grain ou en mus, en aliment, et c'est non pas la chose rendue à l'identique, mais une quantité équivalente. Ce n'est pas les mêmes pièces de monnaie que je t'ai prêtées il y a 3 ans que tu me rendras, mais une somme équivalente. Et dans ce cas-là, il y a un transfert de propriété, hein, c'est un transfert de propriété à la condition d'une restitution au terme du prêt. Donc c'est une forme juridique très particulière qui s'analyse dans ce terme-là, et la forme juridique a une influence évidemment forte sur la façon dont sur la moralité de cette action. Dans cette forme de mutuum, la théologie dit il ne faut rien espérer en retour. Hein, c'est dans le premier texte, c'est la seule citation du Nouveau Testament pour ce qui concerne, enfin, qui est appliqué au problème. Et précisément, Olivier dit très justement qu'elle ne concerne pas le problème de l'usure, mais elle est utilisée pour en traiter, parce que sinon il y a absolument rien qui montre que Jésus dit que l'usure n'est pas juste. Alors que l'usure, pour contre médiévale, est comprise comme, en théologie du terme, on va voir plutôt, est comprise comme le retour de quoi que ce soit de plus que la somme prêtée. Hein, c'est n'importe quel supplément, n'importe quelle rémunération du mutuum en raison du mutuum. Il y a une discussion chez les calvinistes théologiens qui s'engagent à partir de la fin du XIIe siècle et qui aboutit à cette définition. L'usure est un profit réalisé sur un mutuum en raison du mutuum. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des chiffres annexes, et notamment le retard de paiement peut être le plus classique, Hein, donc une pénalité pour retard, pour défaut de paiement, pour retard de paiement, n'est pas une rémunération intrinsèque du prêt, mais extrinsèque, et elle peut être valable, elle n'est pas de l'usure au sens strict, et elle est, en droit romain, ce qui diffère, il quoique intérêt, donc c'est l'origine du mot intérêt. Hein, donc l'intérêt est, sémantiquement, vient de cette notion de, d'un titre extrinsèque qui autorise une différence légale. Donc dans cette partie, j'ai étudié ce conflit entre les deux registres de normes. Clairement, on n'a pas compris qu'il y a conflit, on pense que tout fusionne finalement et qu'il s'agit de la grâce qui circule dans de différentes façons, sans comprendre et sans thématiser le fait que le mot grâce, gratia, a deux sens complètement différents. L'un qui est un sens classique latin, présent dans la culture romaine, qui est une faveur, et une faveur qui appelle une contre-faveur, une faveur qui appelle justement une gratitude en retour. Gratitude, c'est vraiment ce qui est dû pour remercier d'une grâce, à ce sens-là, alors que la grâce chrétienne, religieuse, évidemment, est quelque chose qui est donné gratuitement. Alors c'est la racine aussi de gratuit, mais je pense qu'on est tous en tête, même si c'est parfois un petit peu confus, que gracieux et gratuit ne sont pas du tout synonymes, mais il y en a des termes tout à fait opposés. Dans un cas, il y a une chose gratuite n'appelle rien aux contreparties, un don gratuit est un don qui n'appelle aucune contrepartie, un don gracieux est quelque chose qui appelle une faveur en retour. Et c'est ce point-là précis de la confusion, est-ce que c'est le même phénomène ou pas, c'est un vieux débat que j'ai avec Alain Guéraud, avec Alain Guéry, enfin, je suis du côté d'Alain Guéry, celui qui m'a appris à distinction, et je lui en suis éternellement de m'avoir appris cela il y a 15 ans, il compte Alain Guéraud qui, avec Clavero, pense que tout ça c'est la même chose, et je pense qu'il faut vraiment distinguer les phénomènes. Et encore une fois, pour la raison que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre ce qui se passe dans la tête des acteurs, quelles sont leurs références, et comprendre que dans les relations de civils, il n'y a pas simplement des relations entre deux personnes, mais il y a des relations entre des personnes, des régimes culturels, Dieu, le roi, et beaucoup de monde. Et presque toute la société impliquée dans chaque acte de crime. Donc ça, si on veut retracer et comprendre ce qui se passe dans la tête des acteurs, on a intérêt à comprendre les distinctions de ces notions. Alors cela étant, dans l'article, j'ai repris le débat théologique au XIIIe siècle, et je me suis volontairement arrêté au XIIIe siècle en montrant que c'est un thème qui suscite une réflexion assez importante et qui permet de préciser certaines notions, et qui est une. Alors il y a un terme en Isidora qui est le terme de Clavero a fait son concept unifiant, je montre qu'il n'est pas du tout unifiant, il représente la partie de cette obligation naturelle de réciter quelque chose, d'un devoir de gratitude naturelle qui ne se coupe pas du tout avec la logique religieuse réclamée par le don gratuit, un prêt gratuit qui doit être un prêt sans espoir de retour. Donc je suis resté en fait dans cette opposition-là entre droit naturel et théologie. Et on est en fait bien conscience, même si je n'ai pas du tout dit, que tout bascule au début du XIVe siècle. Et donc c'est l'article qui devrait faire le complément de celui-là, qui est en état de projet, de tout projet, et je ne sais pas si je l'écrirai jamais, mais en tout cas je vais vous dire ce dont il devrait parler, et ça devrait parler de d'un basculement politique du début du XIVe siècle, de la question de l'usure.